Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. C'est le groupe d'Amnesty International Évreux qui a le plaisir de vous retrouver pour son émission mensuelle consacrée à la défense et aux actions pour les droits humains. Donc, comme tous les mois, depuis pas mal de temps maintenant, plusieurs années, on se retrouve. Comme tous les mois aussi, on a un ordre du jour très chargé ce soir. On va vous parler d'entreprises et de droits humains. On va vous parler de la Syrie. On va vous parler du droit d'asile en France, on va vous parler bien sûr de Bonnes Nouvelles, la spécialité à Renan, on va vous parler de droit des femmes.
Bonsoir.
Bonsoir, non mais je ne vous avais pas oublié. Et donc le sujet, un ordre du jour effectivement très copieux. Alors ce soir effectivement à l'antenne, il y a Renan.
Bonsoir.
Françoise.
Bonsoir.
Sabine.
Bonsoir.
Et moi-même Didier. Alors, on vous doit une toute petite information quand même pour commencer l'émission. Comme on n'a pas le don d'ubiquité, on ne pourra pas ce soir être en direct. Et donc, l'émission n'est pas en direct donc, le mardi 26, alors que vous l'entendez, vous, le mardi 26, mais on l'a enregistré, en fait, le samedi 16, parce que ce soir, nous sommes aussi avec le groupe Amnesty de Louviers au théâtre de Louviers pour la pièce Exil sans GPS pour laquelle nous sommes partenaires. Donc voilà, très exceptionnellement, l'émission de ce soir a été enregistrée un tout petit peu avant la date fatidique. Voilà, bon, revenons-en effectivement à notre ordre du jour. Moi, je vais vous parler d'entreprises et de droits humains et qui a fait l'objet d'un excellent article, d'un excellent dossier, même dans la chronique dont je vous recommande la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France, disponible sur abonnement. Et je vous recommande effectivement sa lecture, c'est toujours extrêmement riche. Et donc, entreprises et droits humains, c'est un dossier qui est paru au mois de février. Donc, je vais vous poser une petite question à ceux qui sont avec moi autour du micro. Combien est-ce que vous chiffrez la vie de 15 ressortissants de Côte d'Ivoire et d'environ plusieurs milliers de la santé de plusieurs milliers de ces ressortissants de Côte d'Ivoire? Donnez un prix. C'est pas une boutade, hein, ma question, c'est vrai. C'est chiffrable.
Mais c'est très dur à répondre à ta question. Quand
oui. Ça parce fait partie du dossier.
Parce que donner un prix d'être humain en euros, moi je suis incapable de le
pour
donner.
Pour une société dont on va beaucoup parler qui s'appelle Trafigura, la vie de 15 ressortissants ivoiriens et la santé de 100 000 personnes, ça coûte moins de 30 euros.
Voilà. De combien de personnes?
La vie de 15 ressortissants ivoiriens qui sont morts et de 100 000 personnes qui ont été intoxiquées, ça coûte moins de 30 euros. Parce qu'en fait, c'est le prix qui avait été convenu avec cette société. Alors, je vais vous expliquer comment. Le prix qui avait été convenu avec cette société pour se débarrasser de résidus de raffinage de produits pétroliers extrêmement nocifs et qui ont intoxiqué la vie des habitants de la capitale de la Côte d'Ivoire en 2006. Merde. Alors, je vais vous lire l'article parce que, en question, donc, qui s'appelle « Le scandale Trafigura ». Parce que c'est un résumé d'un très volumineux dossier qui fait plus de 200 pages que j'ai consulté, qui est extrêmement bien fait. Un dossier qui a été réalisé et qui est sorti en septembre 2012, réalisé par Amnesty International et Greenpeace, qui est aussi intéressant parce que c'est une collaboration entre deux ONG par rapport aux droits humains. Donc c'est une perspective d'avenir aussi intéressante pour tous les militants de travailler en commun. Et donc cet article est en fait un résumé du dossier. Je ne pouvais pas résumer le résumé, sinon c'était incompréhensible. Donc je vais vous le lire. Je vais vous le lire de façon assez tonique, de façon à ce que ça passe bien à l'antenne. Mais voilà. Donc le 20 août 2006, Abidjan se réveille dans une atmosphère de cauchemar. Dans plusieurs quartiers de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, une odeur de soufre prend à la gorge des habitants. Vomissements, maux de tête, difficultés respiratoires, irritation des yeux et de la peau créent la panique dans la population. Rapidement submergés, les centres de santé et les hôpitaux appellent les organismes internationaux à l'aide pour seconder un personnel médical débordé. Les autorités dénombrent 15 décès. Selon les registres officiels, plus de 100 000 personnes recevront des soins, mais le nombre de personnes touchées est certainement supérieur. Assez rapidement, l'origine de cette catastrophe sanitaire est connue. En 18 lieux d'Abidjan ont été déversés des déchets toxiques transportés par le cargo Probo Koala, affrété par une société de négoce en produits pétroliers, la société Trafigura. Le pétrolier porte le pavillon du Panama, connu pour son laxisme en matière de droit du travail. Au moment des fêtes, le navire aurait été géré par une société grecque. Quant à Trafigura, l'affréteur, c'est une société créée en 1996 par deux Français, Claude Dauphin et Éric de Turckheim. Son siège opérationnel est basé à Londres, mais sa maison mère est aux Pays-Bas. C'est sa filiale ivoirienne qui a été chargée de l'élimination de la cargaison. Et plutôt que de faire appel à une société spécialisée, elle a confié cette tâche à une entreprise agréée le mois précédent, Tommy. Une société néerlandaise avait proposé de traiter ses déchets au tarif de 100 000 euros par mètre cube. Tommy prétendait le faire pour moins de 30 euros. C'est la somme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ses chauffeurs se sont donc contentés de déverser le liquide toxique dans des décharges et canaux de la ville. Appât du gain, atteinte aux droits humains et carence des États sont les ingrédients de cet incroyable scandale euro-africain qui, six ans après, a vu ses principaux responsables échapper à la justice, tandis qu'à Abidjan s'évaporait l'essentiel de l'argent destiné à indemniser les victimes. Il aura fallu 3 ans d'enquête à Amnesty et Greenpeace pour en démêler les fils. Le rapport, publié en 2012, Une vérité toxique, examine en profondeur la succession tragique des défaillances et l'origine d'un désastre sanitaire, politique et environnemental. L'un des apports majeurs de cette enquête consiste à réviser le parcours de la cargaison toxique pour expliquer comment plusieurs gouvernements se sont montrés incapables d'interrompre le voyage du bateau et de sa cargaison vers Abidjan. À l'origine du produit lui-même apparaît d'emblée la tentation de l'argent facile. Trafigura a l'idée de recourir à un procédé devenu rarissime car très polluant, le lavage à la soude caustique de cargaison de pétrole non raffiné appelé naphtha de coquefaction pour en faire du carburant. Note de Trafigura qui figure dans le dossier, c'est moins cher que tout ce qu'on peut imaginer et on devrait en tirer un maximum de dollars. S'extasia en décembre 2005 un employé du bureau londonien, dans un email révélé dans le cadre d'une enquête judiciaire. L'entreprise savait parfaitement que ce procédé, interdit aux États-Unis, en Europe et à Singapour, produirait des déchets toxiques difficiles à éliminer. De fait, Trafigura n'a pu trouver que 2 sociétés dans le monde prêtes à le faire, aux Pays-Bas et en Tunisie, mais l'une puis l'autre ont renoncé. Trafigura a décidé d'entreprendre elle-même les opérations de lavage en mer. Cependant, elle n'avait toujours pas de solution au problème de l'élimination des déchets stockés sur le navire même. Après plusieurs tentatives infructueuses auprès des ports européens, Trafigura a conclu un accord avec la société Amsterdam Port Service, APS. Cependant, il est apparu que Trafigura n'avait pas révélé à APS la nature exacte de la cargaison, parlant de résidus, alors qu'en termes de la convention de Bâle, il s'agissait sans conteste de déchets. APS révise alors son devis, qui atteint plus de 500 000 euros, somme à comparer aux bénéfices attendus par Trafigura de l'opération dans son ensemble, soit 5,5 millions d'euros. Trouvant le devis d'APS trop cher, 500 000 euros par rapport à 5 millions, Trafigura demande alors à l'entreprise de repomper les déchets à bord du Probo Koala. Les autorités locales auraient-elles dû bloquer ce rechargement ? Oui, ont conclu les enquêtes ultérieures, en vertu du droit international et européen. L'État du port avait l'obligation de savoir où les déchets allaient être emmenés pour être éliminés. Pourtant, le 5 janvier 2006, les déchets sont rechargés sur le Probo Koala et le navire appareil vers l'Estonie. Il n'y fait qu'une escale avant sa véritable destination, l'Afrique. Au Nigeria, géant pétrolier ouest-africain, la toxicité évidente du produit pose problème. Après avoir envisagé de transférer le produit sur une barge et de le ramener au Nigeria sous un autre nom pour tromper les autorités, Trafigura donne finalement l'ordre au Probo Koala d'appareiller pour Abidjan. La société IA, comme on l'a vu, conclut un accord avec une entreprise ivoirienne nouvellement agréée, ouvrant la voie à la catastrophe. Lors du déchargement au port d'Abidjan, les douaniers présents, bien que physiquement affectés par les éliminations des déchets, n'interviennent pas. Transporté par camion, le produit est déversé dans la décharge à ciel ouvert d'Akouedo, l'une des principales de la ville, puis la décharge ayant fermé en divers lieux de la ville. Pendant le transport, je me suis rendu compte que quelque chose clochait avec ce produit, a témoigné un chauffeur. Il puait terriblement. Rien que quand j'ai ouvert les écoutilles de sécurité de mon camion, le produit m'a rongé les doigts. Selon un toxicologue consulté par Amnesty et Greenpeace, les victimes ont pu être exposées à des mercaptans, composés organiques irritants pour les yeux, la peau et l'appareil respiratoire. Les déchets contenant du sulfure, il se peut aussi que ce soit formé de l'hydrogène sulfuré qui irrite les yeux et l'appareil respiratoire et qui a également des effets sur le système nerveux central, provoquant maux de tête et nausées. L'exposition à de fortes concentrations d'hydrogène sulfuré peut entraîner la perte de connaissance et la mort. Aussi incroyable que cela paraisse, bien que Trafigura ait été reconnu coupable par un tribunal néerlandais d'exportation illégale de déchets depuis l'Europe, à Abidjan, un procès initié en septembre 2006 a débouché sur un non-lieu. Pourtant, le rapport d'Amnesty et Greenpeace révèle que l'entreprise était consciente et que son sous-traitant à Abidjan, ayant fourni une lettre manuscrite en guise de contrat, allait bien se contenter de décharger les déchets dans une décharge publique et non de les traiter comme cela aurait dû être nécessaire. Le prix facturé était si invraisemblable que Trafigura, donc moins de 30 euros la tonne, que Trafigura a demandé à la filiale ivoirienne de faire confectionner une facture gonflée, à même d'être crédible aux yeux des douanes européennes. Suspendu par le gouvernement ivoirien et accablé par le rapport d'une commission nationale d'enquête, le directeur du port autonome d'Abidjan, le directeur général des douanes et le gouverneur du district d'Abidjan, tous proches du président alors au pouvoir, Laurent Gbagbo, avaient été impunément rétablis dans leurs fonctions par ce dernier. C'est dans l'opacité qu'un accord a été conclu en 2007 entre le pouvoir ivoirien et le groupe Trafigura. Le gouvernement ivoirien a reçu 105 milliards de francs CFA, soit 160 millions d'euros, en échange de l'arrêt de poursuite contre les dirigeants de Trafigura. Seules deux personnes ont été déclarées coupables pénalement, le directeur de la société Tommy et un employé de l'agence maritime ayant pris en charge le navire. Tous les représentants de l'État ont été acquittés. Une autre action au civil a par ailleurs été intentée à Londres par un cabinet d'avocats au nom des 30 000 victimes ivoiriennes. Elle a abouti au versement par l'entreprise de quelque 33 millions d'euros qui devaient être distribués sous la responsabilité du cabinet d'avocats britannique. Hélas, une coordination nationale des victimes des déchets toxiques, organisme bizarre dirigé par des proches du pouvoir ivoirien, a obtenu le contrôle du pactole des 33 millions d'euros. Et si quelques milliers de victimes ont pu toucher chacun 1100 euros, une partie importante de la somme s'est ensuite évaporée. Les atteintes aux droits humains étaient transnationales, mais les recours ne l'étaient pas, constate le rapport. Non seulement les États impliqués n'ont pas empêché les mouvements transfrontaliers et le déversement des déchets, mais ils n'ont pas su proposer un dédommagement effectif aux victimes dont les droits avaient été bafoués. Des leçons ont-elles été tirées de ce drame ? Oui, en conséquence directe, l'Organisation maritime internationale a interdit, à compter du 1er janvier 2012, les opérations de mélange de carburant et la conduite de procédés industriels à bord des navires. Mais cette nouvelle règle sera-t-elle davantage respectée que ne l'ont été toutes les lois bafouées dans le cadre du scandale de Probo Koala ? Donc on voit effectivement, bon ça c'est la fin de l'article, on voit effectivement qu'il y a toute une série de d'effractions de la société, des autorités en place, des différentes autorités portuaires, etc. Et à la fin, effectivement aussi un détournement de l'argent qui avait été versé à titre de compensation par la société en question.
Qu'est-ce que... Sabine ?
Oui, alors puisqu'on en est là, une petite imposture culottée dans les petits actes de rébellion dont on en a parlé, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, de Steve Crashaw et de John Jackson, que je vous conseille, hein, aux éditions Ballan, justement sur le Bhopal, en Inde.
Je t'interromps, Sabine, excuse-moi juste une seconde, c'est un livre coédité par Amnesty International et toujours disponible en librairie, Petit acte de rébellion.
Voilà. Et une imposture culottée. Il est plutôt rare de voir la direction d'une multinationale gênée. Mais deux hommes ont réussi à mettre dans un prodigieux embarras celle d'un géant américain des produits chimiques, la Dow Chemical Company, un peu comme le style dont Didier vient de parler, en l'impliquant à ses dépens dans l'un des plus incroyables canulars de l'histoire. Aujourd'hui, ils espèrent encore que l'impact de leur geste pourra contribuer à un revirement sans précédent. Le 3 décembre 1984, à Bhopal en Inde, 40 tonnes de gaz toxique s'échappèrent d'une usine de pesticides appartenant à Union Carbide, une société américaine provoquant ce que beaucoup considèrent comme la plus grande catastrophe industrielle qui ait eu lieu à ce jour. Enfin, à l'époque avant le Japon. Dans les nuages de l'injustice... Un rapport publié à l'occasion du 20e anniversaire de la catastrophe, Amnesty International estimait que 7000 personnes étaient décédées dans les quelques jours après l'explosion et qu'environ 15 000 décès avaient été dénombrés dans les années suivantes. Le rapport faisait cette remarque consternante. Le site de l'usine n'a pas encore été nettoyé. Il en résulte que des émanations toxiques continuent à polluer l'environnement et à contaminer l'eau des communes alentours. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, personne n'a eu à rendre de compte concernant cet accident et ses effroyables conséquences. Indra Sinha, auteur de cette nuit-là, traduction de Dominique Vitalios, un livre qui est paru à Paris, Albin Michel, en 2009, raconte l'histoire de ce désastre. Résumé ainsi ce qui se passa juste après. Le soleil se leva sur des gens aveuglés, suffocants, qui tentaient de rallier l'hôpital. certains prêts à tout pour soulager la douleur atroce qu'ils ressentaient aux yeux, s'aspergeant d'eau usée, à même les égouts, à ciel ouvert. Les hôpitaux étaient inondés de mourants et les médecins ne savaient pas quoi leur donner comme traitement, ne sachant pas quel type de gaz s'était échappé de l'usine. Union Carbide refusait de divulguer l'information sous prétexte que c'était un secret de fabrication. En 2001, Dawn Chemical rachète Union Carbide en Inde. Après tout ce temps, la colère n'est toujours pas retombée. De 1984 à 2001. Aux États-Unis, en revanche, l'accident est quasiment oublié. D'autant qu'au siège de Dawn Chemical, le mot d'ordre est que tout est réglé. Deux hommes armés seulement d'une conscience sociale et d'une idée de génie ont voulu changer tout ça. Et un peu avant le 20e anniversaire de la catastrophe, en 2004, Andy Bilschbaum et Mike Monano, deux New-Yorkais militants des causes sociales, qui se font appeler les « Yes Man », les hommes qui disent oui, créèrent un faux site internet parodiant celui de la Dawn Chemical. Le site était www.dawetic.com. Il était tellement bien fait qu'il piqua la curiosité de BBC World et ce fut en toute innocence que la chaîne de télévision demanda une interview à un représentant de la compagnie à l'occasion de cet anniversaire. Et c'est ainsi que Bilschbaum enfila un costume et se transforma en Jude Finisterra, porte-parole fictif de la Dawn Chemical. Interviewé en direct, Bilschbaum Finisterra expliqua à un journaliste médusé et à des millions de téléspectateurs dans le monde que la Dawn Chemical Company reconnaissait pour la première fois son entière responsabilité dans le désastre de Bhopal. Ensuite, il annonça un plan de 12 milliards de dollars pour dédommager les victimes et leurs familles et organiser un nettoyage complet du site. Les préparatifs en vue de l'interview elles-mêmes sont visibles dans un documentaire de Bilschbaum et de Bonanno qui date de 2009 et qui s'intitule « The Yes Man Fix the World », « Les Yes Man réparent le monde ». La nouvelle pour le moins extraordinaire de cet onéreux revirement de situation fut aussitôt retransmise dans le monde entier, entraînant en à peine quelques heures une chute des actions de la Dawn équivalent à 2 milliards de dollars. Lorsque le poteau rose fut découvert, ce qui fit repartir les actions de Dawn à la hausse, Bilschbaum Finisterra fut réinvité sur le même plateau de télé afin d'expliquer en quoi consistait l'action des Yes Man. Cette fois-ci, ce fut le vrai Bilschbaum qui s'exprima. Certains accusèrent les Yes Man d'avoir donné de faux espoirs aux habitants de Bhopal. Mais cette imposture en direct à la télé aida également à remettre sur le devant de la scène les souffrances oubliées de ces gens. Lorsque Bilschbaum et Bonanno se rendirent quelque temps plus tard sur place, les militants locaux les accueillirent à bras ouverts. Les deux hommes furent chaleureusement félicités pour cet acte d'impudence qui leur assurait un coup de projecteur inespéré sur la détresse des habitants de Bhopal, envers et contre ceux qui souhaitaient voir le sujet enterré. Il est parfois utile de dire un mensonge pour révéler la vérité. Telle est la devise des Yes Men.
Donc, un petit mot, si tu me permets, Françoise, juste un petit mot pour terminer mon petit dossier. Bien sûr, Amnesty ne reste avec Greenpeace et d'autres ONG, dont le CCFD aussi qui y participe, et l'association Sherpa, ne reste pas inactif par rapport à tout ce qu'on vient de vous raconter. Et par rapport à l'affaire Trefigura, il y a un travail de lobbying qui se fait vis-à-vis des élus français pour renforcer les réglementations et surtout qu'elles soient appliquées vis-à-vis des entreprises qui commettent ce genre de méfaits absolument insupportables. Et ce qu'on peut dire, effectivement, bon, l'action est en cours, ce qu'on peut dire, c'est qu'à présent, il y a eu deux soutiens tout à fait nets de deux députés qui se sont engagés aux côtés du travail de lobbying d'Amnesty, dans le sens qu'on souhaite, nous, et qu'il s'agit de la députée Danielle Auriol, qui est élue des Verts, et du député socialiste Dominique Potier, qui se sont engagés à interpeller l'État et à faire avancer la réglementation dans ce domaine. Et il faut dire aussi que Trafigura a répondu au rapport d'Amnesty avec des propos absolument sidérants, en disant que le rapport, bien sûr, était incomplet et tendancieux, que la catastrophe du propos là-bas était un incident, que l'intoxication était une supposition, que le maximum avait été fait pour respecter les réglementations, et que Trafigura regrette cet incident, mais vante l'impact positif, investissement, développement, création d'emplois en Afrique. Voilà. Pas de commentaires supplémentaires, je pense que c'est suffisamment éloquent. J'ai trop parlé, je laisse la parole à Françoise.
Une petite bonne nouvelle. Une
petite bonne nouvelle donc à Trinité et Tobago. Alors, c'est où vous faites Trinité et Tobago ?
C'est une bonne question.
Parce que je me suis posé la question aussi.
On a un expert en géographie ?
Non, parce que je me piège moi-même là-dessus.
Trinité et Tobago ? Trinité et Tobago. Eh bien, nous laissons les auditeurs réfléchir et de consulter leur atlas de géographie ou Internet, ça va plus vite pour trouver Trinité et Tobago. Donc, nous-mêmes, on n'en est pas sûr.
Le Premier ministre a déclaré donc à Trinité et Tobago que la stigmatisation de l'homosexualité était une question qui devait être abordée de point de vue des droits humains et de la dignité dont chaque personne doit bénéficier au titre du droit international. Le Premier ministre et son gouvernement ont aujourd'hui l'occasion historique de faire en sorte que les mots deviennent réalité et que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité du genre n'ait plus droit de cité à Trinité et Tobago.
Je vais continuer sur une bonne nouvelle, je pense. En Autriche, la CEDH, c'est-à-dire la Commission européenne des droits de l'homme, a donné gain de cause à un couple de lesbiennes sur dossier d'adoption le 19 février 2013.
Bien.
Ensuite, en France, il y a des progrès concernant le droit d'asile. Il y a une prochaine réforme de l'asile en France. Le 13 février, la CFDA a rendu son rapport « État des lieux de l'asile en France en 2012 ». Rendez-vous ont été pris avec les autorités. Le 20 et 22 février, deux rencontres ont eu lieu avec le directeur général de l'OFPRA et des rendez-vous sont à venir. Donc, les relais réfugiés s'impliquent encore et on peut consulter tout cela sur le site.
Et si on si on ne sait pas où est Trinité et Tobago, on peut demander aussi, ça veut dire quoi ? C'est OFPRA dont tu as parlé, François, ces termes mystérieux, OFPRA.
Ah oui.
Et CNDA, c'est ça ?
CFDA.
CFDA. Donc, Renan ? Interrogation écrite, Renan. Ça veut dire quoi, les deux sigles ?
Très bonne question.
Voilà.
On va peut-être passer une petite pause ou...
Tu ne veux pas répondre à la question. Renan ne veut pas répondre.
Pause.
Bon, ce sont deux structures chargées de respecter le droit des réfugiés. Commission française, je crois, pour le droit des réfugiés.
Tout à fait.
Et l'Office de protection pour les apatrides, etc., etc. Là aussi, allez sur Internet, vous aurez les explications. Ce sont deux structures officielles qui s'occupent du statut des exilés et des réfugiés.
Je savais que tu allais bien répondre, donc...
Non, mais c'est important d'expliquer les termes.
Tout à fait, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, nous, tant que...
Donc, petite pause musicale, et puis on vous dira après ce que c'est, comme musique.
Non, on va le présenter tout de suite.
Voilà.
Un petit coucou, c'est pas Daniel ?
C'est
Daniel. Un petit coucou à Daniel Dark, qui nous a quittés, qui avait écrit « Quand je serai mort, j'irai au paradis ». Alors, un petit coucou là-haut, Daniel. Là, on vous passe, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien, ça va, ça vient. Viens, prends ma main, ça ne sert à rien. Ça va, ça vient, trop d'idées, trop de décors. Ça va, ça vient, c'est toujours mieux qu'être mort. Est-ce vraiment mort. Dis-moi encore, est-ce mieux ou pire être mort? Respire encore, dis-moi, est-ce mieux? sert à rien. Bien sûr, on peut compter encore. Ça ne sert à rien. Compter le nombre des morts. Ça ne sert à rien. Ça va, ça vient. Viens, prends ma main. Ça ne sert à rien.
Retour sur Antenne de Principe Actif. Et il y a Ronan qui a un petit mot à vous dire.
Eh oui, parce que pendant la petite musique, j'ai cherché où se trouvait Trinidad et Tobago. Donc, en fin de compte, c'est un état insulaire des Caraïbes et qui se trouve au large de Venezuela.
Voilà, dans les Antilles.
Tout
si
à
vous
fait.
Voulez y passer vos vacances, pour ceux qui peuvent.
Tout à fait, parce que c'est quand même pas à porte à côté.
Bon, ben moi, je vais vous donner de bonnes nouvelles concernant le marathon des signatures. Alors, vous savez que le marathon, c'est une opération qu'on lance début décembre concernant 12 personnes ou 12 groupes de personnes en danger. Et à cette occasion, nous avons fait envoyer des pétitions. Donc, voilà un peu des nouvelles de chacun des cas. Pour certains cas que je ne vous citerai pas, il n'y a pas de nouvelles infos. Mais par exemple, pour les membres du Movicé, qui est une association qui est colombienne. Eh bien, il y a eu une rencontre nationale à Bogota sur les dialogues de paix avec le gouvernement, les FARC, et aussi, donc à cette occasion-là, il y a quand même des progrès qui semblent se faire. La remise des pétitions a eu lieu à l'ambassade de Colombie, et le 6 mars, vous aurez, si vous voulez écouter, sur RFI un reportage. Donc le 6 mars est une journée de mobilisation sur la Colombie en France et aussi en Colombie. Cependant, il y a de nouvelles menaces. Le 18 février, il y a une nouvelle action urgente qui a été lancée car la fille d'un membre du mouvement, du Movicé, a trouvé des menaces, un papier passé sous sa porte et donc cette famille est en danger. Le ministre de l'Intérieur a refusé de recevoir les pétitions. Donc, le ministre de l'Intérieur de Colombie. Donc, Amnesty nous demande de les renvoyer si nous les avons reçus. Bon, concernant les membres du Centre pour les défenseurs des droits humains en Iran, il y a quelques progrès. Une des personnes pour lesquelles nous avons écrit a réintégré la prison, mais il a avant été soigné à l'hôpital, ce que nous avions demandé. Il a été soigné pendant un mois. On lui proposait une libération provisoire. Il a refusé de donner la caution, estimant que c'était complètement illégal. Une autre dame pour laquelle nous avions écrit, là, est toujours chez elle avec ses enfants, où elle se remet de la prison. Il y a donc une action de message de soutien pour le 21 mars, qui est la fête du printemps dans ce pays. Au Soudan, pour les membres du Jirifna, vous avez une lettre ouverte des jeunes disponible sur le site. Et vous pouvez envoyer des messages de solidarité.
Le site, je rappelle, c'est www.amnesty.fr.
Pour Gao Zixian en Chine, pas de nouvelles infos, mais cependant, on peut lui envoyer un message de soutien, car le 20 avril, il aura 59 ans. Et il y a des gens pour qui on a envoyé des messages de soutien, qui les ont reçus et vraiment qui nous ont envoyé des remerciements très émouvants. Gros progrès pour les familles roms de la rue Coastei en Roumanie. La question des roms est maintenant au cœur d'une réunion entre les ONG et le nouveau gouvernement roumain. Le 13 février, la situation des roms vivant près des décharges est vraiment inacceptable, a dit le Premier ministre. Donc c'est un nouveau Premier ministre qui est nommé, c'est important. Et les ONG ont rencontré d'autres instances en Roumanie. Il y a une action le 8 avril, c'est la journée internationale des Roms. Donc, Amnesty a demandé une demande de rendez-vous auprès de l'ambassade pour remettre les signatures du marathon. Et la pétition est valable jusqu'au 5 avril. Ah, des nouvelles aussi concernant Albert Woodfox et Armand Vallas. J'en avais parlé la dernière fois. Ce sont des prisonniers en Louisiane qui sont en prison depuis 61 ans, je crois.
Tout à fait.
Je dis pas de bêtises. Hein.
On l'avait passé à l'enregistrement justement la semaine, voilà. Le mois dernier.
Et donc, Albert Woodfox, qui nous avait envoyé, ou Herman Wallace, un des deux, nous avait envoyé une lettre très émouvante nous remerciant de notre action pour eux, deux. Lui, Albert Woodfox, a eu sa condamnation annulée pour la troisième fois en plus de 20 ans, le 26 février 2013. Le procureur a 30 jours pour faire appel, donc il est urgent d'envoyer une nouvelle action que vous trouverez aussi en ligne sur le site d'Amnesty.
Oui, il faut parler dans le micro. Il y a Renan qui fait des signes du côté technique. Il faut parler dans le micro.
Pardon.
Alors ensuite, c'est surtout pour les auditeurs.
En Libye, bien les sûr. Habitants de Taouarga, eux, souhaitent retourner dans leur ville car ils ne supportent plus les camps où ils ont été envoyés. Donc, il y aura une nouvelle action à partir du 25 mars.
Encore une fois, tous ces cas-là, ce sont les cas qui relèvent de l'action Marathon des signatures. Vous trouverez tous les renseignements aussi sur le site d'Amnesty si vous voulez d'autres explications par rapport à ces campagnes menées vis-à-vis de ces victimes des droits fondamentaux.
En Russie, pour le cas de Islam Oumar Magiev, pas de nouvelles infos, mais il y a une action en cours et Amnesty a étendu l'action à une action sur le Caucase du Nord. Donc il y a des courriers envoyés aux autorités aussi. En Égypte, pour Aza Hilal Ahmad Suleiman, la pétition a été close le 8 mars. Il y a une demande de rendez-vous en l'ambassade pour remettre les 45 000 pétitions qui ont été envoyées pour elle. Il y a toujours une carte de soutien qui fonctionne. Voilà, pour le marathon, donc nous obtenons quand même des progrès.
Donc je vais vous passer, comme a dit Françoise, donc concernant le marathon. Et il a permis quand même de rassembler 105 683 signatures en France pour empêcher l'exécution de Shaoqun, donc en Chine. Donc je vais vous passer un enregistrement qui est, comme on a fait depuis quelques mois, qui est un enregistrement qui a été fait donc sur France Culture dans une émission au mois de décembre. Donc je vous passe l'enregistrement.
Le meilleur avocat de Chine est au pénitencier de Shayar, au milieu du désert du Xinjiang, depuis plus d'un an. Ce n'est pas le seul avocat en prison, mais c'est le plus emblématique. 48 ans, de la province du Shaanxi, chrétien, marié, sa femme et ses deux enfants ont fui en 2010 par la frontière du Vietnam pour les États-Unis. Il a été condamné le 22 décembre 2006 à 3 ans de prison avec sursis pour incitation à la subversion. En décembre 2011, son sursis a été révoqué et les États-Unis comme l'Union européenne ont demandé sa remise en liberté immédiate. Celui qui suit le dossier est l'avocat des droits de l'homme Teng Biao, un des signataires de la charte 08, co-rédigé par le Nobel de la paix en prison Liu Xiaobo. Devant nous, il appelle la dernière personne à avoir vu Gao Zhesheng en prison, son frère aîné Gao Zheyi.
Tu l'as vu cette année au mois de mars ? Oui, j'y suis allé le premier jour du troisième mois lunaire, le 22 mars. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il avait écrit une lettre, c'est ça ?
Oui, il disait qu'il avait envoyé une lettre et qu'il allait bien. Il demandait des nouvelles de la famille, mais on n'a pas reçu sa lettre et toutes les lettres qu'on lui a envoyées, il ne les a pas reçues non plus.
Il n'en a reçu aucune.
Si, il a reçu une lettre de son neveu, mais pas celle de son petit frère.
Et ton quatrième frère, il y est allé ?
Pas encore, mais il va y aller prochainement.
Quel est son état de santé ? Comment il va ?
Je crois que ça peut aller, mais tant qu'il est en prison, ses amis qui s'inquiètent ne peuvent pas grand-chose pour lui et il en souffre.
Son frère n'était pas parvenu à lui passer le message. On veut la révision de ton procès. Li Fengping, le deuxième avocat qui suit le dossier, nous explique l'échec de la dernière tentative pour le faire.
Il y a 2 mois, son frère a envoyé 2 avocats à la prison de Shayar pour s'enquérir de sa situation et lui demander d'écrire et de faire un rapport. À la prison, on leur a répondu que ce n'était pas possible, que ce service n'existait pas et que Gao Zhesheng étant lui-même avocat, il n'avait pas le droit d'avoir d'autres avocats.
À quoi ressemble cette prison ?
La prison se trouve dans le district de Shayar. C'est à 800 km de Urumqi, la capitale du Xinjiang, dans un lieu très très reculé, dans une zone désertique, au milieu du Gobi et dans une zone à accès contrôlé par l'armée.
Ce qui est reproché à Gao Zhisheng est d'avoir défendu la liberté de culte, des églises clandestines ou des sectes comme celle du Falun Gong, interdite depuis 1999, une secte redoutée parce que capable de manifester devant les portes du palais. En 2005, Gao Zhisheng est radié du barreau après deux lettres ouvertes au président et au premier ministre. Il sera jugé pour incitation à la subversion après avoir publié sur Internet 9 textes critiques où il dénonce la torture. En 2007, il adresse une lettre au Congrès américain demandant aux États-Unis de boycotter les Jeux olympiques et affirme avoir été torturé à l'électricité à cause de cette lettre. Un mois avant les Jeux, il est à nouveau porté disparu et ne réapparaît que pendant un mois en 2010, le temps de disparaître à nouveau. Sa femme et ses deux enfants quittent le pays. À la question de savoir s'il pourrait suivre le même chemin de l'exil que le dissident aveugle Chen Guangcheng, son avocat Li Fangping répond qu'il y a une grosse différence entre les deux.
Je pense que les deux cas sont différents. La plus grosse différence, c'est que Gao Zhisheng s'intéresse à une question extrêmement sensible, qui est celle du Falun Gong, plus sensible que celle des avortements forcés. Par conséquent, pour qu'il puisse sortir, comme a pu le faire Chen Guangcheng, ça demandera encore énormément d'efforts. À mon avis, les questions du Xinjiang, du Tibet et du Falun Gong sont les trois sujets les plus sensibles de la Chine aujourd'hui, et ça le restera pour encore assez longtemps.
Le code de procédure pénale révisé va entrer en application le 1er janvier. Il devrait apporter deux modifications de taille. Le lieu de détention des suspects devra être notifié dans les 24 heures à la famille. Et les aveux obtenus sous la torture seront proscrits. Le professeur He Jiahong enseigne le nouveau droit à l'Université du Peuple, mais aussi aux policiers.
Revised criminal procedure law was just passed last March by the National People's Congress.
Le nouveau code pénal a été adopté en mars par l'Assemblée du Peuple et le changement vise l'usage de la torture dans les centres de détention. La loi dit que le suspect ne peut être contraint aux aveux forcés dans les cas criminels. C'est donc un peu une clause de présomption d'innocence, comme cela existe dans les pays occidentaux. Du moins, c'est écrit dans le texte. Et on a aussi une nouvelle disposition qui exclut de considérer des preuves obtenues illégalement. On attend de voir, mais je crois que ça prendra du temps de se débarrasser des vieilles méthodes, comme la torture.
Quant à la peine de mort en Chine, elle reste applicable aux trafiquants de drogue et aux terroristes. Elle vient d'être prononcée pour trois pirates de l'air ouïghours, auteurs d'une tentative de détournement d'avion au Xinjiang. 4000 exécutions l'année dernière, c'est une estimation, soit devant un peloton, soit par injection létale. Le plus long couloir de la mort ne se situe pas en Chine, mais à Taïwan, où un condamné pour double meurtre, Shu Ho-shun, se bat depuis 24 ans maintenant pour obtenir une révision qu'on lui a déjà refusée 11 fois.
Bien, mais on va continuer par la résolution contre les mutilations génitales féminines. Une résolution contre les mutilations génitales féminines, MGF, avait été adoptée le 26 novembre par la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations unies et représentait un immense encouragement pour les organisations de la société civile qui luttent afin de mettre fin à cette pratique destructrice. Elle nous concerne tous. Qu'une fillette ou une jeune femme puisse être maintenue de force et mutilée constitue une violation de ses droits humains. Fait choquant, on estime à 3 millions le nombre de filles concernées chaque année dans une trentaine de pays. Cette résolution de l'ONU a placé les MGF dans le cadre des droits humains et prône une approche globale, soulignant à quel point il importe de renforcer l'autonomisation des femmes. De promouvoir et protéger les droits en matière de sexualité et de reproduction et de briser le cycle de la discrimination et de la violence. Les mutilations génitales féminines existent dans 28 pays de l'Afrique, ainsi qu'au Yémen, en Irak, en Malaisie, en Indonésie et dans certains groupes ethniques d'Amérique du Sud. C'est une question qui concerne le monde entier. Les femmes et les jeunes filles dans les communautés de la diaspora risquent elles aussi d'y être confrontées. La résolution note clairement que pour parvenir enfin à éliminer cette pratique, il faut que toutes les personnes concernées soient impliquées, y compris les hommes et les garçons. Il importe de souligner que les mutilations génitales féminines sont une persécution fondée sur le genre et propre aux enfants. Il convient d'intégrer la protection des réfugiés qui risquent de subir une mutilation génitale féminine dans la stratégie globale de protection. Alors ça, c'est au mois de novembre. Et pendant 15 jours, il y a eu débat et vient d'être adopté par l'ONU une déclaration historique à tous les pays, puisque tous ont été signataires, qui reconnaissent qu'aucune coutume, qu'aucune tradition, qu'aucune religion ne peut justifier les violences faites aux femmes. Excision, mariage forcé, viol conjugaux et adoption de mesures pour les combattre. Donc voilà, la porte est ouverte. Alors j'espère que ça va continuer, mais c'est une première quand même, que tous les pays de l'ONU soient arrivés à cet accord à suivre.
Oui, c'est quelque
mais
chose.
On a fait une avancée là, je pense.
C'est quelque chose qui permettra aux femmes d'avoir recours effectivement devant un certain nombre de tribunaux, puisqu'il y aura effectivement un composant obligatoire défini par l'ONU qui reste encore effectivement mal expliqué tout de suite. On a très peu d'infos.
Ouais.
Mais effectivement, ça permettra aux femmes de recourir à des actions en justice lorsqu'elles seront victimes et donc effectivement de faire changer pas mal de choses.
Ouais. Donc à suivre, on suivra de près.
Et puisqu'on parle des... Vous savez, vous avez parlé des victimes en termes de femmes victimes de leurs droits fondamentaux. Je vais vous parler aussi des victimes et de populations civiles qui sont dues là au trafic des armes. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans le cadre de ces émissions. Mais on y revient aujourd'hui. On vous rappelle qu'on est en léger différé puisque là, on est mardi 16 mars.
Samedi
16 mars, et que vous nous entendrez le mardi 26. Merci Renaud.
Et nous, on sera au théâtre.
Voilà.
Voir Exil sans GPS.
Donc, pour vous rappeler qu'on en avait déjà parlé, mais que ce traité sur les armes, c'est quelque chose de fondamentalement important, qu'il a été initié dès 1990 par Amnesty et certaines ONG, réclamant auprès de l'ONU une réglementation sur le commerce des armes, visant à faire introduire un respect des droits humains dans son commerce-là, sachant que le commerce des armes à l'heure actuelle n'est pas réglementé, contrairement à ce que souvent dit Amnesty, contrairement par exemple au commerce des bananes qui lui l'est. Donc quelques rappels, donc ça va être discuté du 18 au 28, donc comme vous entendrez, on sera vraiment dans les toutes fins de cette discussion à l'ONU qui devrait permettre d'établir ce traité. Quelques rappels au niveau des chiffres et de ce que ça représente. On estime qu'environ 500 000 personnes sont tuées chaque année par des armes à feu, donc liées au trafic d'armes. Que pour chaque personne tuée dans un conflit armé, il faut compter toutes celles qui sont blessées, torturées, maltraitées, soumises à des disparitions forcées ou prises en otage dans le cadre de conflits et de la violence armée. Que les femmes, on en parlait à l'instant, sont particulièrement touchées de manière souvent invisible et peu médiatisée. Qui est responsable de cette situation? Amnesty rappelle que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni, sont les premiers exportateurs d'armes. L'Allemagne, Israël, l'Italie, la Suède, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Belgique et l'Ukraine sont aussi de grands marchands d'armes. Parmi les principaux importateurs, on peut citer l'Inde, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors, il faut rappeler, puisqu'on va aussi vous en parler, de la situation en Syrie, que si ce traité était rentré en application depuis juillet dernier, ça n'a pas été possible dans un premier temps malheureusement, s'il était rentré en application depuis juillet dernier, les ventes d'armes de la Russie à la Syrie seraient tout simplement interdites. Donc quand on voit ce qui s'y passe, effectivement, on voit l'importance de ce genre de mesures. Donc voilà, l'Amnesty continue à agir évidemment de plus que jamais vis-à-vis de l'ONU. Et pour information, la personne d'Amnesty qui représente le travail de lobbying auprès de l'ONU s'appelle Brian Wood. Il y a tout un portrait qui est sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr. Voilà. Ensuite, Françoise, toi qui es responsable du déroulé de l'émission,
tu devrais nous parler de la Syrie.
Ah, je continue à parler. Vous parler, surtout que moi, je commence à avoir soif.
Non, mais juste une petite bonne nouvelle, histoire de entre les deux, comme une petite bonne nouvelle. Donc, c'est en Argentine. Le procès qui s'ouvre à Buenos Aires, en Argentine, contre les responsables du plan Condor est une étape historique de la lutte contre l'impunité pour les crimes commis par les régimes militaires et autorités des années 1970 et 1980 dans plusieurs pays de la région. Maintenant, tu peux y aller, Didier.
Bien. Donc, la situation en Syrie, bien évidemment, ça continue à être extrêmement dramatique. Amnesty reste très mobilisé par rapport à ça, continue à faire un travail là aussi de lobbying auprès de l'ONU pour que les choses bougent, auprès de la Ligue arabe, etc., aussi pour que les choses bougent. Ce qu'il faut simplement rappeler, c'est que les atrocités continuent. Des billes à fragmentation et des armes à sous-munitions qui sont pourtant maintenant officiellement interdites continuent à être utilisées par les autorités syriennes, le gouvernement syrien contre sa population civile. Dans les villes bombardées, les premières victimes en sont également les enfants qui tombent après sur ces armes-là alors qu'elles n'ont pas explosé et qui se les font exploser à la figure lorsqu'ils vont jouer dans les rues. C'est quelque chose d'absolument hallucinant. Là aussi, vous avez des photos sur Internet, vous avez des documents filmés aussi sur le site d'Amnesty, vous en avez partout. Il faut rester très mobilisé, il faut rester aussi très prudent parce que si on sait que les autorités syriennes sont responsables de ce qu'on peut appeler un génocide maintenant vis-à-vis de sa propre population.
Plus de 70 000.
Voilà, le terme n'est pas trop fort. Il faut rappeler et aussi encore que dans les forces d'opposition qui combattent de l'autre côté, il y a aussi des exactions qui sont commises avec des exécutions arbitraires, avec des prisonniers de guerre qui sont abattus d'une arme dans la tête, avec des choses comme ça, et qu'encore une fois, de deux côtés, il faut être très prudent, même si évidemment, la violence employée n'est pas équitable entre les deux camps. Mais il faut rester très prudent, et si je vous parle de ça, c'est aussi parce que maintenant, la France envisage de vendre des armes, excusez-moi, de vendre des armes aux combattants syriens contre Bachar el-Assad, de sinistre réputation. Il ne faut pas oublier qu'il faudra aussi être très prudent si ces armes, si ces ventes d'armes ont lieu, qu'il faudra être très prudent parce qu'on sait, entre guillemets, on sait à qui on vend des armes, mais on ne sait jamais ce que ça peut devenir après. Et Amnesty International reste extrêmement prudent par rapport à ce genre de décision. Bon, pour autant, on continue à soutenir, on continue à faire un travail de lobbying auprès des autorités et il faut impérativement que ces massacres cessent dans les meilleurs délais.
Et on utilise les enfants aussi pour abattre, pour prouver leur valeur et réussir à abattre des prisonniers, enfin des gens qui...
C'est le problème des enfants.
Donc c'est
le problème
des enfants soldats. De tous les côtés, ils trinquent.
Bon, après, t'as pas de nouvelles après mon petit Renan, après toutes ces considérations un peu graves, malheureusement.
Moi, j'aurais bien une action.
Vas-y, urgente. Françoise. Non, moi j'en ai. Non.
Voilà. Une action urgente concernant la Colombie et concernant la communauté de paix menacée de massacre. Les membres de la communauté de paix de San José de Apartado ont été menacés d'être massacrés alors que les paramilitaires renforcent leur présence dans le secteur. Le 23 février, un homme a appelé un membre de la communauté de paix de San José de Apartado en Colombie et l'a avisé qu'un nouveau massacre se préparait contre la communauté de paix. Il a ajouté que les dirigeants de la communauté étaient la cible et qu'ils devraient faire attention aux enfants et ne pas les laisser sortir dans la rue. Ces menaces font suite à une décision du tribunal administratif qui a statué le 8 février que l'État colombien devait présenter des excuses aux membres de la communauté pour son rôle dans le massacre de février 2005, dans lequel 8 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées et leurs corps mutilés lors d'une opération menée par l'armée et les paramilitaires. Aucun officier de haut rang des forces armées n'a encore été inquiété pour ces crimes. Selon des témoins, entre le 11 et le 16 février 2013, plusieurs camions ont transporté des paramilitaires depuis le département voisin du Choco vers 3 bases militaires situées aux abords des hameaux de la communauté. Les camions ont traversé sans être arrêtés des zones où les barrages routiers militaires et policiers sont légion. Les paramilitaires maintiennent une forte présence dans le secteur de San José de Apartado, bien que cette région soit déjà fortement militarisée. Au cours des dernières années, Amnesty a reçu des informations sur la présence d'une base paramilitaire à Nueva Antioquia et dénoncé à maintes reprises cette situation. Malgré cela, les communautés colombiennes n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient en vue de résoudre le problème de la présence paramilitaire dans le secteur. Donc voilà, on invite à écrire au ministre de la Défense et en envoyer copie à la communauté des San Apartado ainsi qu'à l'ambassade de Colombie. Donc, vous pouvez trouver aussi l'action sur le site d'Amnesty.
Et si on veut contacter Amnesty Evreux, Renan, pour faire ce genre d'action, tu nous rappelles le mail pour nous contacter.
Amnesty Evreux.
Amnesty.evreux.
Amnesty.evreux.
Ah bah si tu oublies le point, ça marchera pas.
J'oublie le point. Amnesty.evreux@gmail.com. Je ne sais jamais si c'est comme faire.
.com. Voilà, vous nous envoyez vos coordonnées, on vous renvoie l'action.
Tout à fait, parce que contrairement à ce que tu dis, François, je ne suis pas sûr qu'on la trouve sur le site.
Je ne sais pas.
Les actions urgentes, généralement, ce n'est pas sur le site.
J'avoue ne pas avoir en tête toutes les centaines d'actions qui sont disponibles sur le site. Mais sinon, vous nous envoyez un petit mail, amnesty.evro@gmail.com, et on vous envoie
le
modèle de lettre et les adresses où l'envoyer. N'hésitez pas, chaque lettre compte. Petite bonne nouvelle aussi, grande bonne nouvelle, je ne suis plus trop à l'ordre du jour là tout de suite, mais ça me revient à l'esprit, ce serait dommage de ne pas en parler. Le 18e État des États-Unis, le Maryland, vient d'abolir la peine de mort.
Je rappelle
qu'aux États-Unis, chaque État est libre d'appliquer ou non la peine de mort, que ce n'est pas une décision fédérale, mais c'est une décision de chaque État. Le Maryland vient d'abolir la peine de mort, la peine de mort continue à progresser aux États-Unis, et ce qu'il faut savoir, c'est que le gouverneur qui a donc pris cette décision, le gouverneur du Maryland, l'a fait en rappelant que même si, d'après les sondages, plus de 60% de la population du Maryland est favorable à la peine de mort, il prenait cette décision parce qu'il considérait que la peine de mort comme étant injuste, cruelle et dégradante. Voilà. Donc la peine de mort, l'abolition de la peine de mort continue à progresser dans le monde. C'est un combat de longue haleine d'Amnesty, mais on ne lâchera pas l'affaire. Françoise ?
Bien, alors maintenant peut-être Sabina ?
Oui, alors un petit édito avant l'action urgente, parce que je crois que Ronan a une action urgente après. De Marion Mercier à la machette. Il y a 3 ans, janvier 2010, Port-au-Prince était dévasté par un tremblement de terre. 350 000 personnes y vivent toujours, dans des camps de fortune. En janvier 2013, alors que nous préparions ce numéro sur les expulsions forcées au Brésil, au Cambodge, au Nigeria et en France, Port-au-Prince a de nouveau été prise de convulsions. Ce n'était pas la terre qui tremblait, non. C'était les hommes, les femmes et les enfants. Les 684 familles qui ont été délogées camp après camp de leurs abris. La secousse a été organisée par des hommes qui tenaient à la main des machettes et des marteaux. Alors ça énerve un peu parce qu'il y a eu beaucoup de millions de récupérés, ils devaient reconstruire, ils devaient sortir de ces camps et rien n'a été fait alors que le monde entier a donné. Donc c'est inadmissible. Voilà, c'était mon coup de gueule.
Donc moi, c'est pas pour Haïti, donc c'est pas une action urgente, c'est une bonne nouvelle, pour appeler ça une bonne nouvelle. Donc le 28 février, la présence au tribunal de l'ancien président, dont Jean-Claude Duvalier à Haïti, présent au tribunal pour répondre à accusations liées à des atteintes aux droits humains, apporte une lueur d'espoir aux familles des victimes des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et aux personnes ayant subi des tortures pendant des années où il était au pouvoir.
Vous rappelez que pour les jeunes auditeurs qui n'étaient pas nés ou qui ne s'en souviennent pas, dans les années 60 et 70, la famille Duvalier était au pouvoir à Haïti. C'était une dictature.
Tout à fait.
Et leur force de répression qui arrêtait, torturait et faisait disparaître les opposants politiques s'appelait les tontons Macoutes. Ça vous dira peut-être quelque chose, effectivement. Et c'est ce genre de sombre individu qui se retrouve enfin devant la justice.
Tout à fait.
Fin d'émission, oui, ben
c'est... On arrive en fin d'émission.
C'est vrai qu'on approche de la fin de l'émission. Françoise a raison, on regarde tous la pendule. On arrive
Je
à la fin de l'émission.
Je voudrais rendre hommage à Stéphane Hessel, au nom du groupe.
Tout à fait,
bien sûr.
Il demeurera pour nous un compagnon de lutte, un héros de nos combats.
On l'avait rencontré à Évreux, justement.
En février 2011, nous l'avions rencontré.
À l'abordage.
Et il nous avait fortement impressionnés.
Et pour ne pas l'oublier, continuez à vous indigner.
Tout à fait.
Et donc, continuez à soutenir Amnesty International. Et continuer à venir nous voir et continuer à prendre contact avec nous. Voilà, c'est fondamentalement important. Bien, puisqu'on en est effectivement arrivé à la fin de l'émission, combien il nous reste de temps, Ronan, toi, le maître de la technique ?
Allez, on va dire 6 bonnes minutes.
6 bonnes minutes ? Oh, bah, c'est royal. Donc, notre information locale. Bon, notre information locale, on est ce soir au théâtre, mais là, c'est trop tard si vous êtes derrière votre poste à transistor, parce que ben, nous, on est aussi au théâtre ce soir avec le groupe d'Amnesty Louviers. Pour la pièce de Slimane Benaïssa, Exil sans GPS. Donc voilà. Et puis, mais par contre, nous serons jeudi prochain, donc le 28, jeudi prochain au cinéma, pour participer à un film qui s'appelle Vol spécial. C'est une invitation qu'on a eue. Ce n'est pas nous directement qui sommes à l'origine de cette soirée, mais on est invité par la scène nationale Évreux-Louviers. On est très contents. C'est un partenariat qui s'amplifie. et on est très content effectivement de ce qu'il nous propose. Donc le 28 après-demain, on est au cinéma, on aura un stand, il y aura un débat à l'issue de la projection, un débat avec le représentant du CFED. Alors le CFED, c'est le comité pour les étrangers et comité étrangers et français pour l'égalité des droits. Et peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être une représentante de France Terre d'Asile et donc nous pour parler des droits des populations exilées et des droits des populations migrantes. Un petit mot sur le film que vous allez voir, donc qui s'appelle Vol spécial. C'est un documentaire suisse qui date de 2010 et qui explique les choses suivantes. Au centre de détention administrative de Frambois, en Suisse, des hommes sont emprisonnés dans l'attente d'un renvoi du territoire. Leur demande d'asile a échoué. Ils sont sommés de repartir après, pour certains, avoir passé plusieurs années en Suisse, travailler, payer des impôts, fonder une famille. Si leur incarcération peut durer jusqu'à 18 mois, l'annonce du renvoi intervient, quant à elle, sans crier gare, et sa mise à exécution est imminente. Ceux qui refusent de partir seront menottés, ligotés et installés de force dans un avion. Dans cette situation extrême, le désespoir a un nom, vol spécial. Voilà, donc venez nous voir au cinéma, venez participer, venez voir le film, venez participer au débat. Une soirée sûrement très riche et très intéressante en perspective. Là aussi, il ne faut pas laisser les atteintes aux droits des populations réfugiés et en exil bafoués constamment par les autorités des pays dont on dépend.
Il faut dire
autre actualité, je sens Sabine qui meurt d'impatience de vous donner.
Je la vois qui fait des grands gestes.
J'ai coupé la parole à Françoise, qui n'est pas bien. Excuse-moi, Françoise.
Non, mais je voulais dire que le thème du festival Ciné-Scène cette année était l'exil.
Oui.
Et donc ça avait lieu il y a des soirées du 25 mars au mardi 2 avril.
Voilà, c'est toute cette semaine en fait. Toute cette semaine où vous écoutez l'émission, c'est toute la semaine que dure le festival Ciné-Scène au Ciné-Pâté des
Rois. Il a commencé hier.
Alors, un petit coup de pub aussi, si vous ne savez pas quoi faire le dimanche 31 mars. Alors, comme ça va être rediffusé, j'espère qu'il y aura encore des entrées, parce que si on ne réserve pas une partie, on annulera, parce qu'il ne faut pas que ça nous coûte de l'argent. C'est pour l'association qui fait des actions solidaires, les Yeux Ouverts, association qui m'est chère, et qui accueille le 31 mars, dimanche, alors le week-end de Pâques, Mariana Ramos, qui est une chanteuse capverdienne magnifique, qui est un petit peu dans la lignée de Cesaria Evora, et qui viendra chanter le dimanche 31 mars à 15h30 au théâtre de l'espace Philippe Auguste. Si on arrive à faire ce concert, l'argent ira pour créer une maison d'accueil pour les enfants des rues d'Antsirabe à Madagascar. Des enfants qui sont livrés eux-mêmes et qui donnent dans la mendicité. Donc voilà. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, venez. Vous pouvez appeler Alain au 06 60 57 85 44, 06 60 57 85 44, ou Annick au 06 18 11 07 41, 06 18 11 07 41. Voilà, merci à tous.
Tu nous redonnes la date et la chanteuse et
le 31 mars, Mariana Ramos en concert à Vernon, au Théâtre Philippe Auguste à Vernon.
Voilà, c'est en soutien à l'association
Les Yeux Ouverts.
Les Yeux Ouverts qu'on connaît bien.
Et il faut les garder, les yeux ouverts, même au niveau d'Amnesty.
C'est ce que fait Amnesty depuis plus de 50 ans, Sabine, voilà. Garder les yeux ouverts.
Oui. Encore un petit coup de pub pour nos camarades de Les Yeux. Le 29 mars, ils organisent un concert contre l'oubli. Et il y aura 4 groupes de rock de 20h à minuit à la salle Mosaïque. Voilà, alors si vous savez pas quoi faire le 29 mars, allez au concert contre l'oubli à Lisieux.
Il n'y a pas l'adresse sur le... Non, c'est juste marqué
Lisieux. Les gens de Lisieux, ils doivent sur Internet, sinon il y a Lisieux un contact.
Et Devreux, on peut y aller aussi, on n'est pas obligé d'être de Lisieux.
Contact au 06 11 11 42 86, si vous voulez réserver.
Je sais que Didier, que tu l'as noté quelque part dans un petit coin, c'est la date de la prochaine émission.
Oui, mais c'est Françoise qui a caché.
Le 30 mars.
C'est Françoise,
30 avril, pardon.
Oui, 30 avril, parce que le 30 mars, c'est bientôt.
Oui, mardi, mais 30 avril.
30 avril, c'est Françoise qui avait caché la feuille pour pas que je voie. Donc,
d'accord.
Voilà. Oui, on va sûrement faire, mais ça, on en a parlé un petit peu avant, mais c'est un peu prématuré d'en discuter. Il y a Sabine qui me montre une feuille. Donc effectivement, on va faire l'anniversaire des actions urgentes. Le 40e anniversaire des actions urgentes, qui était un des pôles des actions fondamentales d'Amnesty. On vous en parle à chaque émission, des actions urgentes. Mais on vous en reparlera plus en détail les prochaines fois. Pour l'instant, on n'a pas bien cogité encore sur ce qu'on allait vous proposer, mais ça ne saurait tarder. On est obligé de se quitter. Donc, c'est Ronan qui va vous dire au revoir, comme ça va changer, c'est pas moi. Allez, vas-y, Ronan.
Bon, moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis donc au 30 avril à Principe Actif.
Bonsoir.
Bonsoir.
À bientôt.
Et n'oubliez pas que vos signatures ont du pouvoir. Hein.
Voilà. Et toujours amnistie.fr et amnistie.evreux@gmail.com.
Tout à fait. Allez, bonne soirée.
Bonsoir.
À bientôt.
Bonsoir.